Matière à penser, Dominique Rousset.
Et notre nouvelle série face à la catastrophe, le pire n'est jamais sûr. On parle d'une dégradation accélérée de l'environnement, un modèle économique dominant qui génère de fortes inégalités et qui apporte des réponses jugées inadaptées ou largement insuffisantes par un nombre croissant de citoyens, pas seulement d'ailleurs ceux des pays développés. En face, un peu partout dans le monde, donc en face de ce modèle, d'autres approches qui entendent faire plus de place à la dimension sociale, à l'autonomie, au collectif et respecter la nature au lieu de s'opposer à elle. Elles ne sont pas majoritaires, mais elles font leur chemin, elles portent l'espoir, elles obtiennent des résultats significatifs, militer, consommer, partager, s'organiser et ce soir faire. Car ils sont de plus en plus nombreux, ceux qui font en dehors des circuits traditionnels et le plus souvent en utilisant les moyens, les technologies d'aujourd'hui. Ils sont seuls ou plusieurs, ils bricolent, ils récupèrent, ils construisent, ils bâtissent même avec des outils qu'ils ont souvent inventés, des savoirs hérités mais réappropriés. Et une ambition sans limite, car ils rêvent de bousculer l'économie de marché, jugée obsolète, rien de moins. Ils, ce sont les makers. Bonsoir Isabelle Berebi-Hoffmann.
Bonsoir Dominique Rousset.
Les makers, on ne vous en voudra pas pour ce terme qui n'est pas français, mais on va revenir sur son origine. Vous êtes sociologue, membre du laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique, c'est CNAM, CNRS. Comme vos deux collègues, Marie-Christine Bureau, Michel Lallemand, avec qui vous avez publié, c'est paru aux éditions du Seuil, sous ce titre, Les makers, une longue et, je dois dire, passionnante enquête sur les laboratoires du changement social, ce qui essaime un peu partout, dont on n'a peut-être pas encore mesuré l'importance. Et pourtant, il pourrait bien contribuer, en effet, à changer pour de bon notre monde. Dites-nous, Isabelle Berebi-Hoffmann, pourquoi vous vous intéressez à ce thème-ci ?
Alors, vous l'avez dit, je suis sociologue et puis je m'intéresse en fait depuis longtemps à des mondes sociaux un peu réformateurs qui ont pour projet de transformer le monde. J'ai travaillé longtemps dans les années 90 sur les informaticiens et les mondes du libre. Il y avait déjà des hackers à l'époque. Ensuite, également sur les mouvements de femmes, sur les sociologues, sur les makers, les hackers. Et puis, dernièrement, j'ai fait une enquête également sur les chercheurs et chercheuses en intelligence artificielle qui s'organisent pour essayer de réguler de façon éthique les usages de leurs algorithmes.
Alors, le monde des makers, on va donner des définitions, bien sûr, apparues dans les années 2000 aux États-Unis au début, mais très vite répandues ailleurs. Vous le qualifiez de monde secret. C'est quoi ? C'est le monde de la débrouille, c'est le monde du do-it-yourself, c'est avec une philosophie. Ils refusent de croire que tout est virtuel. Au fond, on est dans une ère, un monde numérique, les nouvelles technologies sont toutes puissantes, mais ils veulent montrer en faisant, justement, en fabriquant eux-mêmes, qu'on peut ramener les machines, au fond, à leur vrai niveau.
Alors oui, c'est ça.
Pour satisfaire les besoins humains, tout simplement.
C'est ce que vous avez dit, il y a quelque chose de très spécifique dans ce mouvement makers. Alors les makers, ils étaient tout seuls chez eux, ils bricolaient, ils détournaient des objets, ils utilisaient un petit peu de code, un petit peu de machine électronique. Et puis tout d'un coup, en 2005, il y a une revue qui s'est fondée, des conférences, et on a vu fleurir des lieux aux États-Unis qui sont répandus dans toute l'Europe. On a à peu près 3000 lieux aujourd'hui qui sont des Fab Labs, des makerspaces de 100 à 3000 mètres carrés, équipés de machines, qui fonctionnent comme des communs, comme des communautés de partage, où les gens viennent avec un projet pour fabriquer. Donc les makers, c'est des artisans qui essayent de récupérer la puissance d'Internet pour le mettre au service de leur fabrication personnelle, de leur projet personnel, voire de leur imagination, et effectivement retrouver une forme d'humanisme technique, pour reprendre les termes de Simondon, de remettre la machine au service de l'humain.
Est-ce qu'il faut donner des définitions ? Alors, makers, bon, on voit le verbe make, hein, faire.
Oui.
Le hacker, c'est encore autre chose. Après, vous parlez aussi de hackerspace, vous parlez de Fab Lab. Fab Lab, ce sont ces laboratoires, justement, très inventifs. Tout ça, ce sont des tiers-lieux.
Alors, tout ce vocabulaire circule, il n'est pas stabilisé. Il faut dire qu'on a commencé à enquêter sur ces lieux. Il y a aussi des Media Labs, des Tech Labs, enfin, toute une série de sémantiques sur ces espaces collaboratifs ouverts qui n'est pas stabilisé. Nous, on a choisi de les désigner tous par Makerspace. C'est un choix intellectuel qu'on a fait par facilité. Mais effectivement, on parle d'une bataille sémantique. Le monde des Fab Labs, par exemple, en France, s'est développé à partir de 2013, après l'appel de Fleur Pellerin. On a quelque chose comme 300 et 600 Fab Labs soutenus par des politiques publiques en France. C'est très récent. Donc on n'a pas de stabilité de dénomination, mais en tout cas, on a des ateliers collaboratifs ouverts où on trouve des machines numériques, des imprimantes 3D, on y reviendra peut-être, des fraiseuses numériques, des découpeuses laser, et on peut fabriquer depuis le bijou jusqu'au vélo, jusqu'aux maisons en bois ou parfois en béton.
Le point très intéressant, même amusant, que vous décrivez, là vous parlez de ces laboratoires, mais c'est bien souvent dans les garages, voire dans les chambres d'adolescents que naissent des projets absolument phénoménaux.
Alors ça, c'est l'imaginaire du monde du numérique, l'utopie du numérique qu'on connaît depuis longtemps, depuis les premiers jeux vidéo, depuis Hewlett-Packard, depuis Apple, etc. Donc on a un imaginaire, et l'imaginaire est très important dans ces mondes. Important pas seulement au niveau narratif, mais parce que ça fait partie des principes clés de l'humanisme technique, c'est-à-dire... Certains makerspaces ont comme devise l'imagination, notre imagination est la seule limite. Le cours que fait Neil Nergelsfeld, qui a fondé donc un cours et la FAB Foundation ensuite à Boston, s'appelle « How to make almost anything », comment faire absolument n'importe quoi, sans limite. Donc il y a cet esprit de l'imagination humaine doit permettre, grâce aux nouvelles technologies numériques, de donner corps, de donner vie concrète à des choses qu'on imagine dans sa tête.
Oui, c'est enthousiasmant comme projet déjà, on peut l'imaginer.
C'est en tout cas le discours, la philosophie, une fiction qui est une fiction collective du mouvement, mais une fiction qui est performatrice.
Avec un esprit de résistance quand même. Résistance quoi, à un univers qui serait dominé par la toute-puissance de l'outil technologique.
Alors là, c'est l'autre aspect. Vous vous souvenez peut-être, en fait, faut redonner quelques repères. Internet, c'est 95. Un petit peu avant, 92-94, on a Nicolas Negroponte qui sort un bouquin qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit, qui s'appelle « Being Digital », l'être digital, où il explique que tout ce qui est matériel, avec des atomes, va pouvoir être virtualisé, transformé en bits, des atomes aux bits. Et que toute la culture, les livres, l'édition, la musique va devenir virtuelle. Les makers font le contraire. C'est-à-dire, ils prennent Internet, ils prennent la culture digitale et ils rematérialisent. Donc, les makers, ce sont un mouvement qui pousse à créer des objets pour son usage personnel, des objets utiles du quotidien, des meubles, des programmes, enfin, des choses qui servent au quotidien, mais en les rematérialisant sous une forme matérielle, donc d'objets.
Isabelle Berébi-Hoffmann, peut-être que là, on pourrait rapprocher quand même ce mouvement des makers d'un autre terme anglais aussi. Les fameux shakers. Alors, shakers, rien à voir, vous allez me dire, mais vous les citez quand même dans votre livre, en introduction. Nous sommes au XVIIIe siècle, je crois que c'est une jeune ouvrière du textile nommée Anne Lee, qui, pour défendre ce qu'elle appelle son beau travail artisanal, entre en rébellion contre ses employeurs, contre la rationalisation et la répression d'ailleurs très violente envers les ouvriers qui ne les laissent pas s'exprimer comme ils le souhaitent. Elle s'exile en 1774, elle part aux États-Unis et dès 1850, ils sont 4000. Alors peut-être pas autour d'elle, mais en tout cas 4000. Il y a dans leur univers des prédictions un peu apocalyptiques, mais ce qui est intéressant pour notre sujet, c'est qu'ils forment des coopératives très organisées et qu'ils défendent un artisanat de grande qualité. Et on verra se répandre d'autres mouvements d'ailleurs en Angleterre, d'où venait cette jeune femme, et ailleurs encore. Pour vous, c'est quand même déjà les makers.
Oui.
Ce sont des makers.
On a cherché à voir d'où venait cette pratique de « do it yourself », de faire par soi-même. Et par rapport au discours qui nous la présente comme étant vraiment vieille d'une ou deux décennies, on est allé chercher. D'abord parce qu'en sociologie, on a par exemple George Friedman qui part du « do it yourself » lorsqu'il revient des États-Unis en après-guerre. On a le travail à côté. On a André Gortz dans Ecologica qui raconte de la relocalisation productive et du faire par soi-même aussi. Donc on a en
très
sciences sociales et humaines...
Très visionnaire André Gortz.
On a en sciences sociales et humaines une tradition longue et puis on a surtout cette question de l'homo faber depuis Arendt, le rapport à la pratique, à la main que reprenait Sénèque, etc. Donc on s'est dit, on va aller chercher les racines. Et on a trouvé 5 moments, en fait, c'est l'hypothèse qu'on développe aussi dans le livre, c'est-à-dire qu'à chaque moment où on a des périodes période, y compris dans la révolution industrielle plus tard, de rationalisation et standardisation forte de la créativité et du travail, il y a des mouvements culturels de résistance. Les Shakers nous ont intéressés, c'est un des premiers qu'on a trouvé. Donc Anne Lee, bon, c'est une femme, elle part, elle s'installe, c'est une communauté, c'est une secte protestante religieuse, ascétique au départ, mais ils vont inventer des objets très utiles et en même temps d'une esthétique éprouvée. Ils inventent le rocking chair, la chaise à bascule. Ils inventent la scie circulaire. Et ça fait partie de la culture américaine traditionnelle. Ça fait partie des inventions simples, belles, esthétiques, qu'on retrouve dans le quotidien.
Vous citez aussi William Morris, qui serait artisan et artiste, qui lui s'est élevé contre la laideur de l'industrialisation avec cette phrase très belle, je trouve. « Tant que la maison d'un ouvrier sera laide, il sera vain de vouloir de beaux tableaux. » On est en 1893. Donc beaucoup d'exemples. On peut parler des castors aussi, que nous avons bien connus en France, les gens qui font eux-mêmes leur maison.
Voilà, c'est une coopérative d'autoconstruction des maisons.
Alors l'intérêt de la sociologie, donc vous l'avez dit, dès l'apparition du phénomène, des définitions, nous les avons données. L'alliance de la récupération et de l'Internet, c'est encore un des thèmes, en tout cas, de cette philosophie, avec des progrès tout à fait impressionnants apportés par les imprimantes 3D. Et vous ouvrez votre ouvrage avec un exemple tout à fait impressionnant, fabrication de prothèses. Il s'agit d'un jeune homme, un jeune Français amputé d'une main, qui a fabriqué lui-même en imprimante 3D des phalanges, qu'il a vaguement bricolé avec du fil de pêche, une nouvelle main pour 200 euros et qui a été pour cela primée à son arrivée aux États-Unis. C'est extraordinaire.
Oui, en fait, le magazine Make a fait sa couverture sur Nicolas Huchet, donc, et c'était à Rennes, dans un Fab Lab de Rennes. Il avait perdu sa main dans un accident de voiture, c'est 2013, je crois. Et ensuite, le MIT lui a décerné un prix. Donc effectivement, il est devenu très célèbre. Ce qui est intéressant, c'est que ce modèle qu'il a construit, il l'a documenté et mis sur le net dans un modèle libre, de licence libre. C'est-à-dire que n'importe où dans le monde, n'importe quel enfant ou jeune homme qui peut avoir accès à une imprimante 3D, peut reconstruire cette prothèse. Il faut savoir que sur le marché, les prothèses coûtent donc entre 20 000 et 60 000 dollars. Donc, d'une certaine façon, c'est ça aussi qui a été primé au MIT. C'est cette nouvelle économie du libre, du design libre, des modèles de libre et la possibilité de fabriquer localement, pour soi, un produit sur mesure.
Mais ça donne une idée de la révolution industrielle qui pourrait se produire si chacun arrivait. On peut même aller jusqu'à fabriquer du béton avec les imprimantes 3D.
Alors c'est déjà fait, des ponts, on a déjà imprimé 3 ponts je crois dans le monde et il y a des maisons en béton, des villages de maisons en béton qui sont en expérimentation. Alors on ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais bon, l'imprimante 3D peut imprimer des matières, peut imprimer aussi des tissus humains. On a des expériences en Israël en ce moment de cœur artificiel en tissu humain qui permettrait de ne pas rejeter les greffes. Donc on a du biohacking avec l'imprimante 3D, on a du do-it-yourself traditionnel, on a de la programmation, on a des tas d'activités. Néanmoins, on est encore un peu au début. Ce qui n'empêche qu'effectivement, ce monde n'est pas si marginal parce qu'il attire l'attention des entreprises qui se mettent aussi à faire des Fab Labs, des politiques publiques. En Chine, il y a un plan makerspace à Shenzhen pour remplacer par des grands makerspace la production. On a des prévisions de modes de production, l'usine du futur qui serait basée sur du prototypage et des petites séries. C'est ce qui correspond au makerspace, en fait. Donc, le modèle de conception-production liée, immédiate, et de fabrication unique, personnelle avec des circuits courts, attire des intérêts très divers, y compris l'économie traditionnelle du capitalisme traditionnel.
Et il faut ajouter la composante écologique, hein, puisque c'est en principe très bon pour l'environnement. On ne choisit qu'un produit, on y introduit ce dont on a besoin, mais pas davantage. On supprime les frais de transport, par exemple. Les émissions de CO2, j'imagine, très, très largement. Mais pas la pollution par la technologie.
Oui,
car on utilise beaucoup d'ordinateurs quand même.
On utilise l'ordinateur, alors c'est pas... Je ne sais pas si on utilise beaucoup des big data qui sont très consommatrices en temps de serveur, mais Ce sont des mouvements qui font écho à d'autres mouvements qu'on a en
oui,
ce
quand
moment
même, des inspirations écologiques fortes.
C'est-à-dire qu'on retrouve, pas partout, pas chez tout le monde, mais il y a une synergie avec les recycleries, avec les repair cafés, avec les Fab City et la relocalisation de l'industrie ou de la fabrication en ville, avec l'économie circulaire. À Boston, notamment, il y a un food circuit toute une série de restaurants, de lieux de fabrication, de Fab Lab, de Makerspace s'engagent à ne pas acheter au-delà de 20 km. Autour d'eux. Donc, les Fab Labs et les Makerspace s'inscrivent dans d'autres formes de mouvements sociaux aussi écologiques qui visent à relocaliser la production et à diminuer, à rendre plus soutenable et moins consommatrice la production des objets quotidiens.
Qui sont les Makers? Donc, on a défini ce qu'ils font. Vous avez fait une enquête là aussi sociologique. Vous en avez rencontré beaucoup. On n'a pas le temps de donner leur portrait à tous. On a juste parlé de ce jeune garçon qui a fabriquer sa main, mais leur profil quand même est assez, pour l'instant, du moins assez repérable. Ils sont jeunes, ils ont entre 20 et 40 ans, ils sont très diplômés, ils voyagent beaucoup, ils sont très indépendants, ils sont en général assez proches des milieux associatifs, ils ont toute une philosophie qui n'est pas forcément très libérale, très en phase avec l'économie actuelle. C'est ainsi que vous les définissez? Mais où sont les femmes alors?
Alors, il y a beaucoup de questions, on va les prendre dans leur ensemble. En fait, on avait une trentaine de lieux, une vingtaine en France, mais aussi à Dakar, à Berlin, à Rome, aux États-Unis, beaucoup de lieux. Et on a effectivement construit des profils sur les makers français, à partir de 250 profils. Et on retrouve ce que vous dites, mais on retrouve quand même 7 profils. Donc, le profil dominant, c'est celui que vous décrivez, 20-40 ans, très diplômé. Mais on retrouve des gens aussi qui viennent des mondes associatifs ou des universités populaires, parce qu'il y a un mouvement assez fort autour des Fab Labs sur l'éducation et sur la possibilité de hacker justement le système éducatif. On en reparlera peut-être, mais il y a des méthodes. Il y a des façons de travailler, des façons d'apprendre qui sont originales. Ce ne sont pas seulement des tiers-lieux. Ce ne sont pas seulement des coworking spaces. Ou des petites usines de production locales. On a des hackathons, des façons de se réunir, des
Rappelez
façons de travailler.
Rappelez ce qu'est un hackathon. Tout le monde n'a pas la définition.
Les hackathons, ce sont des façons de se réunir à plusieurs. Ça peut être 100 personnes, 150, 300, pendant 3 jours, parfois jour et nuit, de façon intensive, autour d'un projet de conception de quelque chose. Donc ce qu'il faut bien dire, c'est que ces makerspace sont des lieux de prototypage et de conception. Donc on va, je peux vous donner un exemple d'un hackathon auquel j'ai participé aux États-Unis à Boston. C'était pas du tout du code, c'était pas du tout de la fabrication. Il s'agissait de travailler pendant 3 jours sur comment utiliser l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, pour empêcher que les policiers tirent sur les jeunes noirs à capuche. C'était organisé par le mouvement Black Lives Matter. Ça s'appelait Hacking Discriminations. Et pendant 3 jours, on a cherché à faire comment la société civile et les technologies pourraient aider à empêcher le policier stressé de confondre un jeune ado de classe moyenne avec son sweat à capuche.
Qui rentre chez lui.
Voilà, avec quelqu'un de dangereux et tiré dessus. Et ce sont des techniques de travail qui sont vraiment appartiennent à ce qu'on appelle aujourd'hui de façon vulgaire le nouveau monde, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas de la même façon. Il y a du design thinking, on va aller interviewer des gens, on va ensuite essayer de concevoir un concept et on va essayer de le réaliser tout de suite, pendant les 3 jours.
C'est intéressant ce que vous donnez comme exemple, car c'est la dimension sociale qui est effectivement très importante, on n'est pas que dans l'intelligence
J'ai choisi cet
virtuelle.
Exemple parce que hackathon, le terme hackathon s'est diffusé, mais à une vitesse très
on
forte, ça vient de ces mondes-là. La mairie de Paris vient d'avoir sa journée hacking à l'hôtel de ville, etc.
Je disais où sont les femmes, c'est une forme de...
Les femmes, il y a... Alors, on a deux éléments là-dessus. Les makers qu'on a rencontrés en France sont très conscients du fait qu'il n'y a pas assez de femmes. Donc on va dire qu'il y en a entre 25 et 30%. Et il y a des hackerspaces qui sont uniquement féministes. On va retrouver aux États-Unis notamment des safe space, des hacker space qui sont faits que des femmes. Et il y a un mouvement geek féministe. Par exemple, si vous regardez dans la culture numérique, il y a le mouvement Télécomics. Télécomics, ce sont ces hackers qui secrètement ont construit des modems et des internets locaux pendant les printemps arabes. Ils n'ont pas de site, mais bon, vous pouvez tomber sur l'un de leurs sites. C'est une voix d'ordinateur de femme qui parle. Donc, il y a un rapport au féminisme critique qui peut exister dans ces mouvements critiques très fort. Dans la réalité des lieux, on rencontre surtout des hommes, 70% d'hommes, 30% de femmes. Mais, par exemple, dans des domaines comme le textile high-tech, numérique, il y a beaucoup de femmes, il y a des designers, il y a des artistes aussi dans ces lieux-là. Il n'y a pas que des ingénieurs et pas que des informaticiens.
On va y revenir d'ailleurs sur cet aspect, la vie artistique aussi. En fait, ça touche tous les domaines, hein, c'est ça que vous essayez de montrer.
Ça touche pas tous les domaines, mais disons qu'il y a un certain nombre de professions, entre guillemets, créatives. Ça va du design à l'architecture, en passant par l'informatique, freelance, le graphisme, etc. Toutes ces professions qui peuvent travailler en freelance, on va en retrouver une grande partie, parfois, dans les profils de Makerspace.
Sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse.
Matière à penser, Dominique Rousset.
Et en compagnie de la sociologue Isabelle Bérébi-Hoffmann, auteure avec deux collègues d'un ouvrage sur les makers, nous parlons de ce phénomène qui est en train de prendre beaucoup d'importance dans notre monde. Makers, c'est-à-dire ceux qui associent la débrouille, le do-it-yourself, avec les techniques les plus pointues apportées par le numérique aujourd'hui. Isabelle Bérébi-Hoffmann, ce que nous entendions à l'instant, choisi par Anne-Laure Chanel, notre réalisatrice, c'est le discours d'Albert Camus, 1957, à sa réception à l'Académie pour le prix Nobel. Vous voyez des liens avec ce dont vous vous occupez aujourd'hui ?
En tout cas, les préoccupations semblent être les mêmes. La technique, l'humain, les générations nouvelles qui refusent le monde d'avant et peuvent se réfugier dans des contre-modèles. Ce qui est intéressant avec ce qu'on voit chez les makers, c'est qu'il y a ce refus d'autres modèles. Les structures verticales, la hiérarchie.
Le souci
humaniste et le tout numérique, la standardisation par le numérique, par les algorithmes, etc. Et il y a aussi la négation. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces lieux, par exemple, on va parler de non-organisation pour refuser de construire hiérarchiquement des rôles et des chefs. On va parler de unconference, non-conférence, pour rejeter la version aussi académique, cathédrale, verticale du savoir, de l'enseignement du savoir. On fait des non-conférences, c'est-à-dire tout le monde est assis en rond et tout le monde peut parler. On va parler également de 5 minutes of fame, de 5 minutes de temps de parole où chacun va pouvoir s'exprimer. Donc, effectivement, il y a des contre-modèles. Le contre-modèle du monde vertical, bureaucratique, de l'économie de rente, une demande de démocratisation des savoirs, de partage, de fonctionnement plus horizontal, mais aussi de démocratisation des objets. C'est-à-dire que les makers ont ce site spécifique et en commun, quel que soit leur ancrage politique, de vouloir ouvrir les objets qui ont été fermés par les grandes entreprises capitalistes, ouvrir les téléphones, ouvrir leur moteur de voiture pour que ne soit pas captée la valeur du service après-vente, pouvoir récupérer, pouvoir réparer, pour arrêter, par exemple, l'obsolescence programmée.
La surconsommation et tout ce qui va avec.
Oui. Il faut faire la nuance qu'introduisait Brodel. L'ennemi pour les makers, ce n'est pas le marché. Parce qu'on a besoin du marché. Certains makerspaces vont vendre leurs objets en petite série. J'ai rencontré des jeunes physiciens, musiciens qui construisaient des baffes pour, en béton avec l'imprimante 3D pour les jardins en extérieur. Mmh. Et c'est une start-up. Ils en font 10 ou 30 par an. C'est vendu par la Fnac. Donc, en fait, ils peuvent en vivre. L'idée, c'est, on a rencontré beaucoup de makers qui nous disent, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est faire de notre mode de vie un travail. Et pas l'inverse. L'ennemi, en gros, pour les makers, en particulier aux États-Unis, où j'en ai rencontré aussi beaucoup, oui, c'est l'économie
précisé.
De rente.
Voilà, je ne sais pas préciser que vous aviez enquêté longuement aux États-Unis, oui. Vous avez séjourné deux ans sur la côte Est principalement.
Donc 147 makerspaces et fab labs, rien qu'à l'intérieur du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, il y a un écosystème, par exemple à Boston, qui fonctionne en économie circulaire, très très fortement. Et qui est intéressant à observer aussi. Mais donc pour revenir, il faut différencier entre économie de rente verticale et économie de marché. Donc le problème des makers, c'est la fermeture des objets, de l'enclosure, c'est ce que disait l'historien Thompson. C'est de refaire en sorte que les objets, la technologie redeviennent un commun, où tout le monde puisse avoir accès à ce détournement des objets, à ce bricolage, les Américains disent « tinkering », aux États-Unis, c'est-à-dire un détournement créatif qui permet de détourner de l'usage un même objet.
Vous en avez parlé déjà, mais alors ça suppose évidemment un mode d'organisation du travail complètement différent. L'entreprise est bousculée au même titre que tout le reste. Enfin, cela modifie des comportements. Il y a une autre culture. Comment faire, par exemple, pour, je ne sais pas, donner cette place à chacun comme, dont vous parlez. On le voit déjà peut-être, cette hiérarchie bousculée. On transforme le travail, on travaille davantage chez soi. Nous en avons parlé, nous, dans une récente série autour du travail. Il y a le fameux casual day qu'on peut passer, oui. Où on s'habille autrement. C'est un détail, mais ça donne des indications.
Oui, alors le casual day, ça vient des mondes informatiques des années 90. C'est IBM qui avait introduit ça. Le vendredi, ils avaient tombé le costume. Parce qu'effectivement, on a une culture d'entreprise plus informelle qui venait de l'informatique, qui a un fonctionnement horizontal, une culture horizontale, un peu libertaire, voire libertarienne pour les États-Unis. Mais ce qu'il y a là, est-ce qu'on peut parler d'entreprise ? Alors moi, j'ai tendance à dire qu'on est en fait au bout d'un mouvement d'individuation du travail qui a commencé il y a très longtemps. C'est un processus long. Comme disait Brodel. Brodel nous dit en 51, donc à peu près au même moment que la citation de Camus, il dit que de changement, tout change, la science, on comprend plus rien, etc. Tout change. Et en même temps, il y a un moment où les processus longs arrivent à leur aboutissement, et c'est à ce moment-là que fleurissent les roses. Et les roses, ce sont les expérimentations nouvelles, les nouvelles façons de faire. Il dit ça en 51, donc on voit bien que c'est pas de la disruption dont il s'agit, mais que on arrive aujourd'hui, en fait, à la possibilité technologique de pouvoir fabriquer de façon unique pour soi. Alors que la division du travail sur laquelle on s'est construit depuis la révolution industrielle était une division collective, hiérarchique, avec une chaîne de valeur non intégrée et répartie. Donc il y a ce mouvement-là qui est très particulier, parce que si on le veut, on peut voir les makers et les makerspaces comme des lieux où on a supprimé à la fois la hiérarchie et la division du travail. Ça, c'est relativement nouveau pour un sociologue des organisations que je suis aussi.
Et comment c'est pris par les politiques ? Globalement, enfin, on parle de. Alors, déjà, oui. Il y a des différences, évidemment. En France, on a du soutien public, je crois, déjà, pour ces initiatives-là. Aux États-Unis, bien entendu, on est beaucoup plus sur l'initiative et le financement individuel.
Oui, alors.
Privé, je veux dire.
En fait, il y a eu un discours politique qui s'est construit depuis 2013-2014. Aux États-Unis, au Japon, en Chine,
oui, vous avez parlé
en
de la
France,
Chine.
La ville de Barcelone, et au niveau des grandes métropoles. Il y a plusieurs niveaux, mais en 2016, je crois que c'était en janvier 2016, Obama a fait son dernier discours de l'Union. Trump venait d'être élu. Et il a dit, je vais pas faire mon bilan, comme on fait, ou je vais pas parler de l'année qui vient, comme on fait d'habitude dans ce discours. Je vais parler des 10 ans qui viennent. Et il a parlé des makers. Il a dit, inventer, détourner, réutiliser la technique de façon humaine, l'esprit maker, et ancrer dans l'ADN des États-Unis. Il a cité toute une série d'inventeurs célèbres. Et de la Silicon Valley à Austin et à Boston, on doit remettre la possibilité de la technique et l'innovation au service de chacun et à la portée de chacun, l'esprit maker. En France, on a eu des politiques publiques et on a des aides publiques. C'est ce qui a permis que, en fait, la France est leader dans le nombre de Fab Labs en Europe. Toutes les villes moyennes sont aujourd'hui équipées d'un Fab Lab d'une centaine de mètres carrés. Donc tout le monde pourrait théoriquement pouvoir aller fabriquer ou réparer des objets dans les Fab Labs de la ville d'à côté.
Ça, c'est pas vrai assez. Vous ne trouvez pas que c'est pas très
c'est
connu?
En même temps, c'est que ça va vite. Si on regarde la courbe, le premier Fab Lab est arrivé en France en 2009. 2014, il y a eu une grosse poussée des makerspaces et Fab Lab. Et puis, il y a 6 mois, la ville de Paris a lancé Fab City, c'est-à-dire la réunion de 13 villes, je crois, des villes qui vont essayer de faire revenir des lieux, des tiers-lieux qui fabriquent et récupèrent en ville, en chaîne, en écosystème, avec des recycleries, des repères cafés, la permaculture, pour réavoir un peu d'industrie ou de manufacturière
oui.
en ville.
Production locale, très près du lieu, sur le modèle de Boston dont vous parliez. Vous avez cité Barcelone, c'est vrai que c'est une des pionnières de villes intelligentes et des Fab Labs nombreux.
Oui, tout à fait.
Autre question, Isabelle Berébi-Hoffmann, que je trouve vraiment intéressante, c'est justement ce risque, quelque part, de récupération, parce qu'on sait que l'économie de marché est très astucieuse. Et il y a des conflits, des tensions internes au sein de ce mouvement des makers, des valeurs parfois un peu contradictoires, des tensions entre, par exemple, ceux qui sont pour la neutralité du net, tout ce qu'on fait doit être publié, doit être montré, ceux qui défendent peut-être ce que vous appelez dans votre ouvrage un communisme scientifique, pour partager toutes les technologies, alors que d'autres disent attention, n'allons pas trop loin. C'est un débat interne. Et puis par ailleurs, il y a aussi l'économie libérale qui peut quelque part entrer en opposition.
Oui, alors ça,
ou en récupération du phénomène.
Il y a en fait, il y a aujourd'hui une très grande diversité de lieux et de tiers-lieux dans la philosophie. Donc il faudrait parler en 3 temps à chaque fois. Parler des origines, des Fab Labs bottom-up qui sont arrivés spontanément dans la société civile, ceux qui ont été créés sur des fonds publics, ceux qui sont créés à l'initiative de collectivités territoriales. Et à chaque fois, on a finalement des philosophies un peu différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est sur ce quoi je voulais insister, les méthodes de partage du savoir, de démocratisation du savoir et du travail en commun, de bienveillance entre tous, restent les mêmes. Ou l'esprit reste le même. Ceci dit, les financements ne sont pas toujours les mêmes. On peut parler d'une récupération. Il y a des entreprises qui ont des Fab Labs et là qui détournent un peu l'esprit du Fab Lab, puisqu'il y a une charte des Fab Labs au MIT qui précise que toute innovation doit être la propriété soit de celui qui invente, soit commune. Or, dans les Fab Labs, la propriété de ce qui est trouvé revient la plupart du temps à l'entreprise. Donc, ça ne devrait pas, effectivement, s'appeler Fab Lab. On a donc des tas de cas de figure aujourd'hui divers et des débats internes. Il y a eu, par exemple, un Interfab Lab, qui était une organisation des Fab Labs français qui s'est beaucoup disputée et ensuite dissoute. Il y a une nouvelle organisation aujourd'hui, RRFF Lab, qui s'est constituée.
Disputée et, pourquoi voilà. Parce qu'il ne voulait pas justement se faire récupérer par...
Alors, c'est une expérience intéressante. Il y a des débats différents. La question, c'est la question de la représentativité. Comme on est dans des mouvements... qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, revendique la non-organisation,
c'est-à-dire la coopération
horizontale.
Oui. Presque le don.
C'est surtout le fonctionnement vertical de représentativité qui est contre-culturel dans ces lieux. Les hiérarchies existent, ce sont des hiérarchies techniques, mais des hiérarchies organisationnelles et de représentation sont peu légitimes. On peut penser aux partis pirates qui, pour pouvoir travailler en Allemagne notamment, avec les autres partis, il y avait besoin de chefs. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils en ont nommé 2 à chaque poste. pour ne pas avoir une personnalisation unique du chef. Donc il y a vraiment quelque chose qui...
Parti politique, là, vous voulez
dire. Parti politique. Oui. Mais ce mouvement se diffuse. On a ce mouvement des holacraties, des entreprises sans chef. Zappo, ça a été la première entreprise aux États-Unis, qui font des chaussures, a supprimé tous les postes de management. Il y a 30% des employés qui sont partis, je pense. Ceux qui sont restés se distribuent les rôles de coordination. On se retrouve dans ce que prônent les makers, une forme de pouvoir qu'ils appellent la douocratie. Douocratie, ça vient de doux, faire, et cratie, le pouvoir. C'est-à-dire, a le pouvoir, est en position de coordonner les autres, celui qui fait, celui qui prend l'initiative. Donc ça supprime les hiérarchies de statut, de prestige et de rang.
Autre point intéressant, c'est quand même, en dépit de ce que vous venez de dire, la nécessité d'être contrôlé, d'une certaine régulation, pour pas partir peut-être dans toutes les directions. Vous me disiez en préparant cette émission que ça a été une des premières réclamations de Chelsea Manning. On va rappeler qui est Chelsea Manning. Dès sa sortie de prison, aussitôt libérée, il faut nous réguler. C'est-à-dire qu'elle défendait évidemment les actions d'alerte et autres dont elle fait partie et qu'elle soutient. Mais attention à ne pas nous laisser récupérer. On doit rester acteur de ce que nous faisons. Alors peut-être donner un peu plus le contexte.
Là, ça oui, alors là, on sort du milieu proprement des makers et on rentre dans celui des hackers. Chelsea Manning...
Hackers, donc ceux qui interviennent sur Internet pour
Internet,
signaler...
Donc, Chelsea Manning a été emprisonnée à la suite des fuites de WikiLeaks.
Voilà.
C'est elle qui avait sorti une grande partie des fuites de WikiLeaks. Elle a été en prison, elle y est retournée là, puisqu'elle a refusé de parler devant le grand jury aux États-Unis. Obama l'a graciée en mars 2017. Et à sa première sortie publique de prison, donc c'est une hackeuse célèbre, donc transparence de l'information, critique de l'État, des structures verticales, protéger la vie privée des individus, mais transparence totale pour toutes les grandes organisations.
Protéger les sources, etc.
Voilà. Donc... elle arrive donc à un festival de culture technologique aux États-Unis célèbre qui est le South by Southwest à Austin, où Obama se trouve aussi. Et sa première allocution est pour dire à propos de l'intelligence artificielle, des algorithmes, du gouvernement par les algorithmes, dont on va peut-être reparler, qui est un autre développement du numérique et de l'informatique aujourd'hui qui touche le travail et qui nous touche chacun d'entre nous. Elle dit... Régulez-nous. Il faut réguler le monde des hackers et des computer science, ce qui est une bombe parce que la régulation, par définition, est complètement à l'opposé des valeurs du monde hacker et de WikiLeaks en particulier. Elle demande une régulation collective et professionnelle et d'autres membres des chercheurs en intelligence artificielle, eux, vont demander, souvent des femmes, une FDA, c'est Food and Drug Administration aux États-Unis, c'est l'organisme de régulation de la mise sur le marché des médicaments et de tout ce qui se mange. Il demande l'équivalent pour les algorithmes, c'est-à-dire qu'ils soient testés pour vérifier qu'ils ne nuisent pas aux valeurs humaines, à l'humain, qu'ils ne soient pas porteurs de discrimination très violente avant de les mettre sur le marché.
On voit bien que le pire n'est jamais sûr, c'est le titre de notre série. On voit ces mouvements de résistance. Et tenez, puisque vous venez d'en parler, allons un petit peu plus loin, cette question de l'intelligence artificielle, tout à fait voisine des mouvements de makers. Vous avez enquêté sur des femmes qui ont fait plier, hein, le terme, on peut le dire, Google, justement, en mettant un mouvement éthique qui exigeait la transparence de l'usage des algorithmes, le monde informatique un peu plus proche de nous. Et ça a marché.
Oui.
C'était où d'ailleurs, dans quelle ville?
En fait, les initiatives éthiques, il y en a une très importante qui s'appelle le AI Institute, AI Institute à New York, qui est dirigée par une ancienne de Google, Meredith Whitaker, et Dana Crawford, qui vient de Microsoft, je crois, donc des femmes, et qui ont fondé une initiative éthique, un institut pour surveiller les usages de l'intelligence artificielle et des algorithmes. C'est un institut qui a été fondé il y a un an, 18 mois. Il y a une conférence qui s'est créée aussi à New York, la FAT Conference Fairness and Accountability and Transparency des algorithmes, qui réunit beaucoup de femmes, des philosophes, des sciences sociales et des créateurs, des machine learners, des gens qui font les algorithmes. C'est tout nouveau. Chelsea Manning a lancé, a marqué le début du mouvement. Et on a effectivement au sein des milieux, je crois qu'il y a 230 000 machine learners, c'est-à-dire des gens qui conçoivent des algorithmes intelligents, des algorithmes apprenants dans le monde, la communauté, on la mesure par les conférences, les publications. Et dans ce mouvement, il y a quelque chose qui est en train de prendre, qui est un mouvement d'action collective éthique pour dire on veut que les algorithmes soient régulés, que les start-up, que les entreprises comme Palantir, par exemple aux États-Unis, qui fait de la police prédictive, ne puissent pas s'en emparer sans être contrôlés et régulés.
C'est intéressant parce que c'est presque paradoxal hein, par rapport à leur vocation initiale qui est quand même laissez-nous faire et faire seuls et innover et inventer avec nos outils, nos méthodes et nos valeurs. En même temps, surveillez-nous quand même. Enfin, ne nous laissez pas partir dans tous les sens, c'est un peu, si on résume.
C'est parce que c'est paradoxal qu'il y a quelque chose à comprendre. Vous disiez, le pire n'est jamais sûr. On a quand même une vision du futur aujourd'hui qui est très monolithique. C'est soit de la dystopie, soit de l'utopie, des mondes enchantés. Les makers ne sont pas si enchantés que ça. Et les machine learners ne sont pas du tout enchantés. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, dans un monde nouveau, bousculé, il y a des mondes sociaux qui sont en train de construire des rapports de force. Donc, dans le cas de ces initiatives éthiques, il y avait un projet chez Google qui s'appelait Maven, qui était de la vente, de la construction d'algorithmes pour l'armée. Et tout d'un coup, beaucoup de femmes et les gens de Google ont fait grève pour dire « on veut savoir ». On veut savoir à quoi vont servir nos algorithmes. Le projet a été abandonné. Ça a duré 15 jours et en 15 jours, le projet a été abandonné. Donc il y a une possibilité aussi dans ces mondes de construire des formes de résistance interne.
Suffisant pour éviter le pire, tout cela, Isabelle Berrebi-Hoffmann, on dit parfois c'est très intéressant, c'est une croissance exponentielle, c'est vrai. Les imprimantes 3D, c'est un outil absolument fabuleux et on n'en est qu'au début. Mais cela reste quand même très modeste hein, en termes de chiffres déjà, évidemment, même de présent, toutes ces façons collaboratives de faire, de travailler, même s'il y a pas mal de diffusion, est-ce que ça suffira? Alors, comment les voyez-vous évoluer, en d'autres termes?
Une des principales évolutions qu'on a vues et qu'on cite un petit peu dans le livre, c'est qu'il y a des écosystèmes qui sont en train de se construire, des réseaux. Et ces réseaux ne sont pas seulement locaux, ils sont à la fois locaux mais aussi transnationaux, globaux. Donc ça donne une force de frappe qui est quand même intéressante à ces modes productifs. Ensuite, sur l'avenir, impossible de vous dire, bien sûr. Je ne vais pas vous dire si ça va être récupéré ou pas, mais c'est en tout cas intéressant d'aller rencontrer des mondes sociaux qui s'emparent de valeurs nouvelles et qui cherchent à réinventer ainsi le travail, la coopération et le vivre ensemble.
Avez-vous été surpris tous les trois de découvrir tout cela? Parce que votre enquête est très longue, très minutieuse. C'est aller au-delà de ce que vous attendiez à trouver?
Alors, oui, parce que quand on rentre dans un makerspace ou un Fab Lab, on ne comprend pas grand-chose. On ne voit pas comment ça peut fonctionner, parce qu'on voit un grand fouillis, des stands, des artisans qui produisent des choses, des hangars. On ne comprend pas bien comment ça peut marcher. Là où ça nous a bousculé, et je trouve que c'est intéressant pour tout le monde, c'est que on s'est dit que les catégories de pensée qu'on avait habituelles, par exemple, entre travail, activité, emploi, la séparation entre vie professionnelle, vie privée, entre c'est ça ce qui se passe dans ces tiers-lieux et ces communs, était en train de sauter et qu'on avait là des groupes sociaux qui étaient en train de réinventer le rapport au travail, des façons de faire, des façons de consommer, de produire.
Sans tourner le dos à toutes les technologies, au contraire, en s'en, les utilisant,
en s'en emparant.
En s'en emparant et avec l'intention bien délibérée de ne pas s'en laisser déposséder.
Voilà.
Merci infiniment Isabelle Berrebi-Hoffmann avec Marie-Christine Bureau, Michel Lallemand. C'est paru aux éditions du Seuil. Vous faites donc paraître ce travail Makers, enquête sur les laboratoires du changement social. Je le recommande à tous ceux qui s'intéressent à ces questions et on arrive même à comprendre, même si comme vous dites, c'est pas si simple d'entrer dans un Fab Lab, ce qui s'y passe. Merci encore.
Merci à vous.
Et merci à notre équipe Anne-Laure Chanel avec Claire Levasseur ce soir pour la réalisation, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet pour la documentation. On va trouver d'autres titres et pas mal de suggestions de lecture pour tous ces thèmes autour du pire n'est jamais sûr et ça n'est pas fini. Bonsoir à tous.